affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va prendre la forme d'une véritable enquête, voire d'une quête, à la fois historique et spirituelle, puisque nous allons partir à la recherche d'Hermès Trismégiste, un nom qui, depuis des siècles, évoque tout un monde de sagesse, de philosophie, mais aussi de religion, de gnose et même d'alchimie. C'est la raison pour laquelle il est certainement nécessaire de reprendre l'enquête, de s'appuyer sur des éléments tangibles et de les réinterpréter de façon à pouvoir en tracer des contours plus précis. C'est ce que nous allons faire en étant bien entendu aidé aujourd'hui, nous le saurons par Jean-Pierre Mahé, membre de l'Académie des inscriptions à belles lettres. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux belles lettres un nouveau traité sur Hermès Trismégiste, accompagné d'ailleurs d'un très grand nombre de textes dont certains sont inédits. Peut-être faut-il d'ailleurs commencer par là, évoquer avant l'histoire d'Hermès Trismégiste, l'histoire de votre livre, car tous les livres ont aussi une histoire. Quelle est sa genèse alors ?
Eh bien, au moment où le père Festugière, qui est un des membres les plus prestigieux de l'Académie des inscriptions et belles lettres, achevait en 1954 une édition magistrale des extraits grecs de textes philosophiques attribués à cet auteur imaginaire, Hermès Trismégiste, on découvrait fortuitement en Égypte et en Palestine, des manuscrits qui allaient changer totalement les conditions de la recherche. Alors, en ce qui concerne, je veux dire, les manuscrits de Qumran, près de la mer Morte, et les manuscrits de Nag Hammadi, près de Louxor, en fait, en Haute-Égypte. Et parmi les manuscrits de Nag Hammadi, il y avait des textes hermétiques. Alors, ces textes étaient difficiles à atteindre pour des savants français parce qu'il y avait eu la guerre du canal. Et donc, il y avait eu une rupture, on ne pouvait plus les consulter. Heureusement, j'étais à l'époque à Strasbourg. Et donc, un collègue allemand de Münster m'a envoyé les photos des manuscrits qui m'intéressaient, et j'ai donc pu m'y adonner dès 1974 et soutenir ma thèse en 1982 en publiant ces textes. Et puis le temps a passé, et il y a une vingtaine d'années, on m'a demandé pour la collection grecque des universités de France, qu'on appelle la collection Budé, de faire un volume de textes nouveaux. Alors au début, je pensais que je n'aurais qu'à faire le ramasse-piette et tout mettre en ordre. Et puis, je me suis aperçu que, même 20 ans après, les données avaient changé. D'abord, on avait découvert des textes qui n'existaient pas en 1982, quand j'avais publié ma thèse. Et en plus, même les textes déjà existants étaient éclairés par des recoupements qu'on avait pu faire avec des manuscrits grecs ou autrement. Donc il fallait refaire à frais nouveaux toute cette édition et en même temps tenir compte des grandes synthèses historiques qui avaient été, au moins trois d'entre elles, qui avaient été faites dans les 70 dernières années. Hein. C'est donc il fallait tout reprendre à zéro.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'était plus seulement question de compléter un savoir existant, mais de questionner ce que nous savions d'Hermès Trismégiste pour en avoir une nouvelle vision. Alors, et du coup, ça aboutit à cet ouvrage. Alors précisément, peut-être, parce que tout le monde ne connaît pas Hermès Trismégiste, peut-être faut-il commencer par le brosser à grands traits. Qui est-il, ou plutôt de quoi parle-t-on ? Car vous venez de dire, c'est un personnage imaginaire.
Ah, c'est un personnage imaginaire, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il est né dans l'Égypte hellénistique, c'est-à-dire dans l'Égypte conquise par Alexandre et ensuite gouvernée par la dynastie des Lagides ou des Ptolémées. Et à ce moment-là, une sorte de rivalité s'est introduite entre les Grecs, s'est instaurée entre les Grecs, qui étaient les vainqueurs, le monde hellénique qui était le vainqueur au point de vue militaire, administratif, et les héritiers de ces très grandes civilisations du Proche-Orient, qui étaient l'Égypte, la Perse, la Mésopotamie, enfin toutes ces... Bon. Et donc, assurément, les Grecs pouvaient se vanter d'avoir inventé la science, la philosophie, toutes les branches du savoir, mais il y avait un point sur lequel ils étaient très inférieurs aux barbares, comme ils disaient eux-mêmes. C'était le temps, la connaissance du temps. C'est-à-dire que la mémoire des Grecs ne remonte qu'aux premières Olympiades, c'est-à-dire au 8e siècle avant notre ère. Et auparavant, bien, il y a les temps légendaires, les temps mythologiques, avec évoqués par Homère et par peut-être d'autres épopées. Et puis, avant cela, ben, il y a les temps indéfinis, dont on ne sait rien. Eh bien, à cette ignorance des Grecs, les barbares opposaient l'antiquité de leurs dieux et de leurs archives. Ils disaient, ben voilà, on n'avait aucune idée naturellement de la durée réelle du monde. Mais nous avons des tablettes, disaient les Assyriens, qui s'étalent sur plusieurs millénaires. Les Égyptiens disaient la même chose de leurs hiéroglyphes. Et ils pensaient que finalement, ils avaient des rapports, l'écriture, leur écriture existait depuis l'origine des temps, et qu'ils avaient des rapports écrits sur toutes les époques du monde, et même sur l'époque où les dieux avaient fait le monde. Donc ils savaient la vérité universelle. Et pendant ce temps-là, que faisaient les Grecs? Eh bien, les Grecs faisaient des théories. Et les théories, ce sont des arguments sonores qui ne servent à rien, puisque les sceptiques sont là. Et ils peuvent plaider pour la théorie, contre elle, la réfuter. À cette époque, rappelons-le, il n'y a pas d'expérimentation pour vérifier la validité des théories. Les théories sans validation expérimentale, évidemment, sont extrêmement fragiles.
Donc, en quelque sorte, la culture grecque, au moment où elle triomphe en Orient, tourne malheureusement pour elle un petit peu à vide.
Ça va mettre longtemps en réalité.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut attendre, si vous voulez, le premier siècle après notre ère pour que cette crise se produise. Et justement, les textes d'Hermès Trismégiste, en tout cas les textes philosophiques dont nous occupons, apparaissent, disons, à la fin du premier siècle, peut-être, ou plus tôt. En tout cas, ils fleurissent au deuxième et au troisième siècle. Et c'est donc une période véritablement critique, où les Grecs, étant réduits à des apories inextricables à cause des raisonnements des sceptiques, se disent peut-être qu'on ferait bien d'écouter ce que disent les barbares, parce que dans ce cas-là, on va découvrir la mémoire la plus ancienne de l'humanité, faire des rapprochements, jeter des ponts entre l'Égypte, la Mésopotamie, l'Inde, les Hébreux, etc. Et découvrir finalement un savoir primordial qui est la véritable mémoire de l'humanité. Ce n'est pas une façon, une fuite dans l'irrationnel. Hein, il faut y insister. C'est une façon nouvelle de philosopher qui est professée par des philosophes tout à fait respectables, comme Porphyre, par exemple, mais Jamblique, d'autres philosophes de ce genre.
Alors, Hermès Trismégiste, donc c'est le nom d'un auteur imaginaire, collectif, en fait, il ne se définit que par les textes qui lui sont attribués.
Voilà, alors Hermès, quand on parle d'Hermès Trismégiste, c'est l'Hermès égyptien. Et l'Hermès égyptien, c'est Thoth. Or, Thoth, il a évidemment un rôle central parce que c'est le scribe des dieux, donc la mémoire de l'Égypte, personnifiée. Hein. Alors, on va traduire, dans les textes où il est égyptien, où il est question de Thoth, Il s'appelle Thoth A-A-A-Our, c'est-à-dire Thoth grand, grand, très grand. Alors les Grecs qui essayent, ou plutôt les Égypto-Grecs qui essayent de traduire ça en grec, vont traduire Mégas, Mégas, Mégistos. Et puis après, ils vont dire Trismégas ou Trismégistos. Et à partir du moment où Hermès commence à être connu, je dirais dès le 3e siècle avant notre ère, par des traités d'astrologie, puis après par des traités d'alchimie et des papyri magiques, disons, et puis au début de notre ère, par des traités philosophiques, on va essayer de donner une explication à ce nom mystérieux de Trismégis. Comment est-ce que la même personne peut être trois et une? Alors, on va dire que, par exemple, il y a eu une famille d'Hermès. Il y a eu le premier Hermès, qui est Thoth, qui a écrit, qui a enseigné, qui a vu ce qu'ont fait les dieux aux origines du monde et qui est à l'origine de la science lui-même. Il a parlé ensuite à son fils Hermès Agathodémon, et Hermès Agathodémon a tout écrit en hiéroglyphes. Et après cela, Hermès Trismégiste, après le déluge, il n'y a pas tellement de déluges en Égypte, il y a une crue tous les ans, n'est-ce pas, mais à un certain moment, a traduit les hiéroglyphes en grec, et donc nous avons les enseignements du premier Hermès, et comme c'est les enseignements de trois générations d'Hermès, on appelle ça Hermès Trismégiste, le troisième grand de la lignée. Et alors, par la suite d'ailleurs, les Byzantins et ensuite les Arabes vont donner une biographie à tous ces Hermès. Les uns, alors le premier vivait en Égypte, le deuxième a vécu à Babylone, le troisième est revenu en Égypte, et on va en faire des personnages réels. Et puis il y a des gens plus subtils, des Grecs plus subtils, qui disent, eh bien, il n'y a qu'un seul Hermès, mais il s'est incarné trois fois. Il est venu une première fois au temps primordiaux avec Thoth, ensuite avec Agathodémon, et ensuite avec Trismégiste de nos jours, au temps du roi Ptolémée.
Alors, par nature, donc c'est ce personnage mythologique qui est un Égyptien, qui recueille l'héritage égyptien, mais il porte un nom, un nom grec. Ça souligne d'emblée le syncrétisme, quand même.
Oui, ça souligne d'emblée le syncrétisme. En réalité...
Alors, quelle est la part des deux cultures et l'antériorité? Parce que, si j'ai bien compris, il syncrétise aussi, il condense... une sorte de rivalité entre les cultures. On est entre la fusion ou la coopétition,
la fusion compétition. Très ouais. Certainement. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que les textes hermétiques ont été conçus dans des milieux égypto-grecs, mais je dirais des Égyptiens qui sont au fond humiliés du sort actuel de leur pays, enfin du sort à l'époque de leur pays. C'est-à-dire qu'ils constatent qu'ils ne sont plus maîtres chez eux, qu'il y a deux communautés qui les dérangent, les Grecs, bien entendu, mais aussi les Hébreux qui sont là et qui tiennent une très grande place. Et que ces communautés ont des prétentions intellectuelles qui leur paraissent insupportables. Hein, les Grecs prétendent tout savoir, les Hébreux aussi, d'une certaine façon, puisqu'ils ont la Genèse. Je vous rappelle que la loi, la Torah en général, a été traduite d'hébreu en grec au IIIe siècle, et est donc en circulation à cette époque. Or, se disent les Égyptiens, supposons qu'un instant, qu'il y ait des choses vraies dans la Torah, ou par exemple dans la philosophie de Platon ou chez Homère. D'où proviennent ces choses vraies? Sûrement pas des Grecs ou des Hébreux. Pourquoi? Parce que les Grecs et les Hébreux sont des peuples sans mémoire. En effet, ils ont tous subi l'accident du déluge. Et donc, à un certain moment, il y a une rupture et toutes les traditions primordiales sur la création du monde, leur ont échappé. Tandis que l'Égypte a connu tous les ans la crue du Nil, mais finalement, elle n'a pas eu de déluge. Elle a été continuelle. Donc, on pose article 1, tout ce que les Grecs ou les Hébreux peuvent dire de vrai sur le monde, sur Dieu,
vient.
Sur l'être,
vient de
d'Hermès Trismégiste. Et pour avoir la vérité, il suffit de réécrire ces textes-là. Donc, vous voyez, l'hermétisme se présente comme la réécriture, je dirais, égyptienne, d'une révélation universelle qui revient en quelque sorte à ses origines.
Donc en quelque sorte, ce n'est pas un argument d'autorité, mais un argument d'antériorité.
D'antériorité, absolument. Absolument.
En se plaçant donc à l'origine du monde, puisqu'ils se disent témoins des premiers temps de la création du monde.
Donc ce que vous appelez un syncrétisme, qui est une chose odieuse, bien entendu, c'est-à-dire un mélange frelaté de vérités hétérogènes, en réalité, c'est une réhabilitation, c'est-à-dire une réégyptianisation des vérités primordiales.
Voilà, donc on se trouve quand même dans un cadre où il y a des rivalités intellectuelles, spirituelles, et probablement aussi...
Il faut bien comprendre ces rivalités pour bien lire les textes. Hein,
Alors il y a un personnage qui joue un rôle clé, bien qu'il ne soit pas au cœur du débat, c'est Flavius Joseph. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il a initié ce mouvement ou accompagné ou permis ce mouvement de compétition?
Oui, ben Flavius Joseph a réhabilité des auteurs qu'on avait oubliés depuis très très longtemps. C'est-à-dire que dès la conquête, l'hellénisation de l'Égypte, il y avait des écrivains orientaux, par exemple Bérose à Babylone, mais aussi Manéthon en Égypte, qui avaient essayé d'expliquer l'histoire de leur pays et les pensées de leur pays en langue grecque. Mais c'était des écrivains assez frustes, assez maladroits, et finalement leurs œuvres étaient bien oubliées au 1er siècle de notre ère, quand a éclaté une querelle déclenchée par un certain Appion, qui était un antisémite alexandrin, à propos de la dignité du peuple juif. Et donc, à ce moment-là, Flavius Joseph a écrit ce qu'on appelle à tort le Contrapion, mais qui s'appelle un traité sur l'antiquité du peuple juif qui réutilise et réhabilite toutes ces sources orientales. C'est donc lui qui les a remis en circulation et qui les a signalés à l'attention d'un très grand écrivain qui est Eusèbe de Césarée, l'auteur de la chronique universelle à l'époque de Constantin. Et donc, à cause de Flavius Joseph, ce débat sur cette bataille du temps redevient actuel au temps où fleurissent les écrits philosophiques
d'Hermès Trismégiste. En quelque sorte, donc, c'est lui qui utilise le premier cet argument d'antériorité.
Ah oui, absolument.
Et qui en même temps se fait le vecteur donc, de tous ces auteurs et de
absolument.
Oubliés.
Et il le fait dans une langue, il s'est fait aider bien, pour écrire, mais il l'a fait dans une langue élégante qui a tout de suite retenu...
Séduit les élites grecques.
Séduit les élites grecques. En tout cas, retenu l'attention de certains lecteurs.
Alors précisément, puisqu'il s'agit de redécouvrir une sagesse antérieure, de quoi est-elle constituée? Car il faut bien qu'il ne suffit pas de dire « j'étais là avant », il faut pouvoir proposer quelque chose. Quel est le message? Quelle est la révélation, en quelque sorte? Puisqu'il s'agit d'une... Hermès, je crois qu'une des possibilités d'interpréter son nom, c'est le révélateur. C'est ça?
Certainement, c'est d'abord une révélation sur Dieu. C'est une révélation sur Dieu une forme, j'ose pas dire de monothéisme, mais je dirais de dénothéisme qui est très particulière.
Il faut définir ce terme. Énothéisme.
Énothéisme, ça veut dire un seul Dieu, croyance en un seul Dieu.
Hein. Alors, un seul, mais qui n'exclut pas d'autres, alors que mono exclurait l'existence de tout autre.
En quelque sorte, vous voyez, certainement, le Dieu des Hébreux est représenté. Je veux dire, d'ailleurs, on pourrait discuter ce que veulent dire les textes, mais est représenté comme un dieu jaloux, zélotès, n'est-ce pas? Et les Grecs traduisent jaloux, qui veut dire empressé, ils le traduisent par phtoneros, envieux. Hein. Et donc, les gnostiques, qui sont les contemporains des hermétistes, vont représenter le créateur comme une divinité impuissante et mesquine. Hein. qui, au fond, enferme des bonnes âmes dans des corps de chair, qui fait des dégâts en mélangeant l'esprit et la matière, et qui punit l'homme injustement d'une façon... Bon, vous voyez, bon, alors, les hermétistes, eux, ils disent Dieu est partout, et tous les dieux, y compris ceux que les autres appellent des idoles, sont ses émanations. Par conséquent, ce sont ses émanations, par conséquent, il ne les envie pas, il les aime, hein, il ne les désavoue pas. Et finalement, les hommes connaissent Dieu, chacun à leur échelle. Certains ne connaissent que les statues, d'autres connaissent les dieux du ciel, les astres, et d'autres connaissent le grand Dieu. Et tout ça, ça constitue une voie de montée. Et donc, l'hermétisme, c'est avant tout une voie qui est quelquefois appelée, dans les nouveaux textes justement que j'ai édités, qui est appelée la voie d'immortalité.
Alors, ah, donc il s'agit en quelque sorte de partir du multiple pour arriver à
l'un,
ou
de partir d'en bas pour arriver en haut. Alors, naturellement, en bas et en haut, je veux dire, pour des esprits contemporains qui se représentent un cosmos infini dont nous n'occupons qu'une toute petite part, ça n'a aucun sens. Mais là, il est bien clair que pour Hermès Trismégiste, le monde est fini. Hein. Il n'occupe pas tout l'espace. Il a 10 étages. Et donc,
Cheminons le long de ces étages pour comprendre.
Alors, par exemple, nous sommes sur Terre au niveau des quatre éléments, n'est-ce pas ? Après ça, il y a les sept sphères planétaires. Et après ça, il y a l'Ogdoade qui est la sphère des fixes. Après ça, il y a l'Énéade. Entre l'Ogdoade et l'Énéade, il y a les Décans, qui sont des divinités égyptiennes anciennes, hein, mais un peu hellénisées, en tout cas par leur nom. Et puis, au dixième étage, il y a Dieu. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter jusqu'à Dieu directement. Il est, d'une certaine façon, inatteignable. Mais, en somme, il s'agit de conduire l'âme depuis l'étage inférieur, le rez-de-chaussée, jusqu'au neuvième étage, c'est-à-dire jusqu'aux puissances. Alors, cette ascension de l'âme est représentée comme... un phénomène post-mortem, disons, dans le plus célèbre des traités hermétiques, qui est le Poimandrès, celui qui a été connu dès la Renaissance. On nous raconte comment l'âme franchit les huit sphères, après elle se libère du corps, elle franchit les huit sphères, et finalement, elle entend les chants des bienheureux et des anges dans l'Ogdoade, et elle rentre en Dieu. C'est-à-dire elle accède au neuvième étage parmi les puissances qui émanent de Dieu. Et puis, il se trouve que dans les textes de Nag Hammadi, les textes coptes, un texte que j'ai édité pour la première fois en 1978, il y a une ascension initiatique. C'est-à-dire que cette fois-ci, sous la conduite d'un maître, on peut vivre par anticipation cette ascension en Dieu. C'est le traité qu'on appelle de l'Ogdoade et de l'Énéade, donc de la huitième et de la neuvième sphère céleste.
Donc dans ce cas-là, il y a des exercices spirituels,
Il faut s'y préparer. Alors je vais faire une comparaison très triviale exprès. L'âme, c'est un oignon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pelures qui sont les unes au-dessus des autres. Alors, en réalité, ces pelures proviennent de tous les étages de l'univers. C'est-à-dire qu'il est bien évident que dans la mesure où l'âme est motrice, c'est elle qui permet au corps de bouger, de percevoir, etc., elle a une carapace, une pelure extérieure qui est irrationnelle, qui est matérielle en quelque sorte. Ça, c'est l'âme motrice. Et puis, à l'intérieur de l'âme, eh bien, il y a les passions. Il y a l'amour, il y a la colère, il y a le courage, différentes choses. D'où viennent ces passions ? Elles viennent des sphères planétaires. Hein, n'est-ce pas ? L'amour vient de Vénus, le courage peut-être vient de Mars, l'esprit de domination vient de Jupiter, etc. Donc vous avez des passions, n'est-ce pas, qui viennent des sphères. Et puis, si vous arrivez à dompter vos passions, eh bien, vous accédez à la sphère de la raison, le logos. Ça, c'est la huitième sphère. Pourquoi le logos, la huitième sphère, est-elle la sphère de la raison? Parce que c'est là que sont les constellations, qui sont fixes par opposition aux planètes, qui sont des sphères d'erreur, n'est-ce pas? Et enfin, au neuvième, vous avez les puissances invisibles de Dieu qui animent le monde. Donc, en fait, si vous descendez dans votre âme, vous montez vers Dieu. Descendre en soi-même, ça veut dire retrouver les couches les plus anciennes et les plus célestes de l'âme. Et donc, ça veut dire remonter en soi. Et ça, ça peut se faire par un phénomène initiatique qui nous est révélé par deux traités. L'un des traités édité par Festugière, qui était le traité 13, et un deuxième traité qui a été retrouvé en copte après 1947 et qui n'était pas accessible à Festugière.
Alors, dans quel domaine est-on finalement? Dans quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie, de la religion, de l'ascèse, de...
Alors j'ai envie de répondre que nous ne sommes pas tout à fait dans la philosophie, parce que, ou du moins dans la philosophie telle que nous l'entendons au sens contemporain. Hein. C'est-à-dire que peut-être depuis la philosophie allemande, en tout cas, nous pensons que la philosophie doit être une espèce de système, de construction. On pense toujours à Kant ou à Hegel hein, en disant ça. Mais au fond, c'est réduire le mot philosophie, parce que le mot philosophie convient bien sophie, c'est-à-dire une doctrine, une théorie, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, il y a aussi philein, n'est-ce pas? Aimer. Or, il se trouve que Festugière, si vous voulez, était un grand expert de la philosophie théorique. Il avait écrit des choses magnifiques sur Platon, sur Épicure, etc., sur Proclus. Mais il y a eu après lui un autre philosophe français qui s'est intéressé à l'Antiquité, c'est Pierre Hadot. Et Pierre Hadot a expliqué que la philosophie était avant tout une manière de vivre et que cette manière de vivre était s'acquérée par des exercices spirituels qui étaient communs, enfin qui sont... Il y en a dans toutes, ils ne sont pas communs à toutes les écoles, mais il y en a dans toutes les écoles de philosophie. Il s'agit de travailler son âme, de s'auto-conditionner pour être capable d'élever sa pensée où on veut la conduire. Eh bien, dans ce cas-là, la philosophie ne devient plus n'est plus un système. Elle devient avant tout une voie, c'est-à-dire une conduite spirituelle, un moyen pour élever l'âme vers un but et atteindre en quelque sorte une forme ou une anticipation de divinisation. J'ai quelquefois la tentation de dire que la philosophie est un simulateur de vol, c'est-à-dire quelque chose par quoi on apprend à piloter et on sera capable... d'après ses auteurs, bien entendu, c'est pas mon opinion personnelle, mais d'après ses auteurs, on sera capable de se piloter soi-même quand on sera libéré du corps.
Alors, s'il s'agit d'une construction qui s'appuie sur des traités, des exercices, il y a forcément aussi toute une architecture sociale autour de cela, des gens qui diffusent cette parole. Est-ce qu'on a des traces et une idée de
Alors là, de on rentre dans une querelle extrêmement difficile, si vous voulez, qui est très embarrassée. Alors, je pourrais citer les œuvres du dernier auteur qui est traité de cette question, qui s'appelle Garth Fraudon. Son livre est paru d'abord en anglais à Cambridge, mais il a été traduit ensuite par aux belles lettres. Hein, et donc, on a une traduction française qui s'appelle Hermès l'Égyptien. Alors, lui reprend à peu près tous les documents qu'avait cité Festugière dans son ouvrage La révélation d'Hermès Trismégiste, et il essaye d'en extraire une image des milieux hermétiques. Je regrette de dire que je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon. C'est-à-dire, ça me paraît trop général et trop extérieur. Les milieux hermétiques étaient probablement des cercles plus fermés. Alors, je pense qu'il faut essayer de nous contenter de ce que nous disent les textes. Or, justement, sur cette question, les nouveaux textes ont apporté des renseignements très, très précieux. C'est-à-dire, il y avait une prière dite d'action de grâce qu'on connaissait par la conclusion d'une traduction latine, l'Asclepius, si vous voulez, et aussi par un papyrus magique grec, donc, qui a été édité par Nock et Festugière. Mais on en a retrouvé une traduction copte. Hein. Et on s'est aperçu, finalement, qu'il y a une espèce de prologue et de conclusion. Mais que ces prologues et conclusions qu'on a pris pour, on disait, un lien narratif avec ce qui précède. En réalité, ce ne sont pas des liens narratifs, ce sont des rubriques liturgiques. C'est-à-dire, vous avez une première rubrique liturgique qui vous dit comment il faut dire la prière, à quel moment, comment il faut se tourner vers le soleil levant ou couchant pour dire la prière. Et ensuite, vous avez le texte de la prière. Et ensuite, une deuxième rubrique liturgique vous indique ce que vous devez faire après. Alors, vous devez embrasser votre voisin, vous devez prendre un repas rituel, vous devez faire... Vous voyez, c'est pas une narration, c'est une prescription. Alors, ça veut dire que ces prières étaient au départ des unités littéraires indépendantes qui étaient incluses dans des recueils de prières. Et donc, ces recueils de prières supposent forcément une assemblée et un cercle hermétique. C'est-à-dire qu'on a maintenant une preuve documentaire de l'existence de cercles hermétiques.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'inviter les gens à réfléchir, à rentrer en eux-mêmes et avoir une certaine ascèse. Il y a des prescriptions précises, une liturgie, comme vous venez de dire, et donc probablement une pratique sociale.
Des mystères d'initiation, et aussi des enseignements. Alors, on a quand même quelques fenêtres qui s'ouvrent, si vous voulez, de ce côté-là. Alors, premièrement, il faut bien voir que cette pratique ne peut pas être éloignée des cultes égyptiens, parce que la grande originalité des hermétistes, c'est qu'ils ne condamnent personne. Autrement dit, ils pensent que les cultes égyptiens traditionnels doivent être pratiqués inconditionnellement. Qu'on soit philosophe ou qu'on soit un simple paysan du Fayoum, on pratique ces cultes traditionnels. Ils sont bons, ils sont nécessaires à au maintien du monde. Si on ne les pratique pas, il va arriver des catastrophes. Deuxièmement, quand on est un philosophe, on peut aller plus loin. On peut commencer d'abord par supputer le chemin de l'âme en faisant de l'astronomie. Et ensuite, on peut la transformation intérieure qu'il faut faire en soi-même pour se convertir en étudiant l'alchimie, parce qu'au fond, la transmutation d'un métal en or, c'est à peu près la même chose que ce qu'on doit faire à sa propre âme pour écarter toutes les impuretés de l'âme irrationnelle et même, je dirais, de l'âme bavarde, logique, si vous voulez. Pour arriver à l'intellect qui comprend tout ou voit tout d'une seule façon. Et après, eh bien, on peut, une fois qu'on a acquis ces enseignements, on peut avancer vers l'initiation.
Alors, vous l'avez dit, il est possible donc d'être à la fois hermétique de pratiquer la religion sociale des anciens Égyptiens. Est-ce que cet hermétisme se propose de la même façon de se surajouter à d'autres traditions religieuses pouvant exister à ce moment-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, par exemple, concilier hermétisme et judaïsme ? Est-ce que ça s'oppose ? Ou est-ce que c'est comme une sorte de supplément qu'on pourrait rajouter à tous les autres cultes séculiers de l'époque ?
Il est certain que les hermétistes cherchent à recruter largement. Ils sont eux-mêmes des Égyptiens qui sont fiers de leur culture, mais ils ont certainement eu des visiteurs païens. Hein. On a des... Alors là, je sors du principe que j'ai dit, parce qu'il y a quand même des témoignages qui nous laissent, Porphyre et d'autres, qui nous laissent entendre qu'il y avait des gens qui étaient tout à fait étrangers et qui venaient faire des stages, en quelque sorte. Il y avait un tourisme, je veux spirituel. Dire, culturel de l'Égypte. Donc, on faisait exactement, pas exactement, on croyait faire ce que Solon lui-même avait fait autrefois en Égypte, quand il avait parlé avec le prêtre de Saïs. Donc, on allait faire un séjour dans un temple. Et peut-être qu'à ce moment-là, on rencontrait des groupes d'hermétisme. Mais alors, à partir du moment où on avait adhéré jusqu'à un certain point au dogme de l'hermétisme, on n'était plus le même homme. C'est dit dans l'initiation, n'est-ce pas ? Ce que j'étais, je ne le suis plus. Je n'ai plus la même forme, je n'ai plus le même visage. C'est-à-dire, dans le monde, on continue d'être monsieur un tel. Tout le monde croit que vous n'avez pas changé, mais vous avez pris un nom nouveau, vous êtes Asclépios, vous êtes Tat, vous êtes Agathodémon, etc. Et donc ça veut dire que vous avez acquis un autre moi, et vous n'avez plus le droit d'être ce que vous étiez auparavant. Donc et en particulier en ce qui concerne le judaïsme, il y a un paradoxe, parce que il y a énormément de traces de la littérature hébraïque du second temple, voyez, qui apparaissent dans le texte, des traductions de la Septante, des citations de la Septante plus ou moins transformées, même je dirais toujours transformées, puisque les Hébreux sont censés avoir transformé des pensées égyptiennes.
Donc, oui, c'est de la même façon.
Des réécritures de la Septante, des réécritures des apocryphes. On a trouvé des traces évidentes de textes qumraniens et on a trouvé aussi des liturgies de la synagogue. C'est-à-dire que certaines des prières hermétiques sont en fait des prières juives rectifiées. Mais pourquoi rectifiées ? Parce qu'il faut se débarrasser de l'idée que Dieu est un Dieu jaloux. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, en réalité, si vous voulez, si par hasard, un juif se trouve intéressé par l'hermétisme, il devra renoncer à un certain nombre de points fondamentaux de sa religion, en particulier sur la conception de Dieu, du Dieu jaloux, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a quand même, ça marque une rupture. Hein. Ça ne peut pas.
Ça fait un peu penser au christianisme, tout ce que vous dites là, non ?
Ça fait un petit peu penser. Alors les chrétiens.
Quasiment tout ce que vous venez d'énoncer là pourrait être attribué à la rupture chrétienne.
Alors en réalité, les chrétiens se sont sentis très à l'aise quand ils ont lu les textes hermétiques. Mais il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire que les chrétiens, pendant les deux premiers siècles, restent très proches des origines juives. En fait, ce qui va les en séparer, c'est la révolte de Bar Kochba et la répression d'Adrien dans les années 135 à peu près. Et donc va se fonder le judaïsme rabbinique. Mais au IIIe siècle, les chrétiens sortent des catacombes et ils entreprennent de coloniser systématiquement tous les genres de la littérature grecque. Hein, on va même écrire des tragédies, on va faire toutes sortes de choses qui sont qui n'étaient pas pensables avant. Et alors, évidemment, la philosophie. Et pour la philosophie, eh bien, on trouve qu'Hermès Trismégiste est très, très commode, puisque il parle d'un dieu unique en trois personnes. Alors, on va pouvoir... Athanase d'Alexandrie, quand il discute contre Arius, eh bien, il cite Hermès Trismégiste. Ou quand il discute contre l'empereur, il cite Hermès Trismégiste.
Oui, c'est une référence qui est commune à cette époque.
C'est un détournement. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est parce qu'il y a...
Ils en font un oracle.
Ils en font un oracle. Et donc, on va faire des oracles païens prouvant la vérité de la raison chrétienne, de la religion chrétienne. Et c'est donc une des raisons de la transformation, de la conservation d'Hermès Trismégiste. C'est-à-dire, Hermès Trismégiste, d'une certaine façon, a été sauvé par les pères de l'Église, par Athanase, par Cyrille, par... Vous voyez ? Bon. Aussi par des alchimistes, comme Zosime, qui est probablement un alchimiste de la fin du IIIe siècle.
Et puis, alors, il faut expliquer pourquoi l'alchimie trouverait sa source dans l'hermétisme. Peut-être par cette volonté de créer des jeux de conciliation ou de correspondance.
Alors d'abord, parlons du mot alchimie. Voilà. Hein, alchimie, tout le monde le sait, vient de Kémé, qui est le nom de l'Égypte, n'est-ce pas ? Donc c'est la science égyptienne par excellence. Donc, bien évidemment, il y a des recettes alchimiques qui sont attribuées à Hermès Trismégiste. Alors, les recettes alchimiques, ça peut être tout simplement pratique. Comment fabriquer de la teinture rouge ou de la teinture dorée ou des choses comme cela, hein. Mais très vite, ça va devenir une théorie, c'est-à-dire une théorie de la matière qui emprunte très largement à la philosophie grecque. Alors, les premiers hermétistes théoriciens ne sont pas alchimistes théoriciens ne sont pas hermétistes. Hein. Ils raisonnent en termes plus généraux. Au fond, transformer du plomb en or, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire garder la substance, mais changer les accidents. On garde la substance du métal, on supprime tous les accidents qui font que c'est du plomb, ou que c'est du fer, ou que c'est du cuivre. On supprime tout ça, et on réinjecte les accidents propres à l'or, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, on a une transformation. Alors, le problème, c'est que, si vous voulez, un tel savoir, en principe, est un savoir déstabilisant. Si chacun a le pouvoir de transformer les choses, de changer les accidents de tous les êtres singuliers, c'est très mauvais.
Oui, l'ordre du monde pourrait être bouleversé.
L'ordre du monde pourrait être bouleversé. Donc, il faut s'exprimer d'une façon métaphorique. Et donc, on va prêter à Hermès Trismégiste des principes qui permettent de transformer la matière. Alors, des principes très mystérieux, du genre de « le grand Dieu opère dès le début hein, ». Ça veut dire il faut tout de suite commencer avec le feu ou quelque chose de ce type-là, si vous voulez, le feu.
Ou, le grand Dieu, c'est le soleil, voilà.
Oui, ou le soleil, n'est-ce pas ? On va avoir donc des adages hermétiques d'Hermès Trismégiste. On n'a pas conservé de traités complets. Mais on voit que les traités philosophiques transforment ces adages pour transformer la matière en adages pour transformer l'âme et les dispositions mentales de la personne. Alors donc, la troisième étape de l'alchimie, c'est que ça devient un exercice préliminaire pour se transformer soi-même. Donc il y a une mystique de l'alchimie. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, au début, chez Zosime de Panopolis, donc, qui vit vers 270 à peu près de notre ère, dans le delta.
Comment explique-t-on, perçoit-on la disparition progressive ? Après tout, on peut voir cet hermétisme comme un rival des autres sagesses, philosophies, et Dieu sait s'il y en avait à cette époque. Pourquoi pas un rival du christianisme même ? Comment explique-t-on que l'un triomphe, que l'autre s'éteint ?
Ben, je pense que l'hermétisme a quand même été, dans l'ensemble, une pensée élitiste. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à conquérir... il défendait naturellement les cultes populaires, mais il ne cherchait pas à convertir les foules à leur religion.
Alors que le christianisme était la religion plébéienne, donc...
C'était pas du tout une religion qui cherchait, ou un mouvement religieux qui cherchait une large assise sociale. Il fallait des petits groupes un peu isolés dans les temples. Et donc la fermeture des sanctuaires païens a certainement précipité la disparition de l'hermétisme. Mais on voit que l'hermétisme a duré tant qu'il y a eu des anonymes qui étaient prêts à écrire de nouveaux traités hermétiques. Et on voit que j'ai été initié au mystère hermétique, on m'a appelé Asclépius, et je vais écrire un enseignement tout à fait apocryphe d'Hermès à Asclépius. Bon, Et j'ai aucun scrupule à signer à Sclépus, naturellement, dans cette affaire. Mais ça commence à disparaître à la fin du IIIe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'auto-représentation spontanée de la communauté à travers une littérature hermétique nouvelle. Vers l'an 300, c'est fini, déjà, à ce moment-là. C'est-à-dire avant la suppression des temples païens par les empereurs.
Et on a une explication sur cet épuisement ou...
Non, on n'a pas d'explication là-dessus. On le constate, on peut pas l'expliquer. Évidemment, l'idée, après, va rebondir. Chaque fois qu'on a besoin de résoudre des conflits, si vous voulez. C'est-à-dire que l'hermétisme, maintenant, va servir de médiateur vers l'an 400 entre le christianisme et le paganisme. Mais, par exemple, à Byzance, au XIe siècle, il y a des disputes à propos de la philosophie et de la théologie. Est-ce qu'il peut y avoir une philosophie qui pense par elle-même, par la simple raison? Alors, il y a des gens qui le croient, mais ils vont vite être qualifiés d'hérétiques. Alors, il y a des gens plus subtils qui, à ce moment-là, évoquent, comme Michel Psellos, qui évoque la philosophie d'Hermès et qui compose cette anthologie qu'on possède encore aujourd'hui, qui s'appelle le Corpus Hermétique. Et puis, après ça, au moment où, je ne sais pas, au moment de la Renaissance, eh bien, le problème est de savoir si on est obligé de suivre la scolastique de saint Thomas d'Aquin, tirée d'Aristote, ou si on peut proposer un autre type de philosophie. Eh bien, à ce moment-là, des gens vont appeler l'hermétisme Prisca Philosophia, la philosophie ancienne, et ils vont proposer jusqu'au Vatican de remplacer Aristote par Hermès Trismégiste. Et après, c'est les guerres de religion. Et après, il ne faut pas oublier que, par exemple, Newton était un grand hermétiste. Et que il est question, si vous voulez, de la rotation du Soleil et de la Terre, si vous voulez, dans le traité 16. Du corpus hermétique. Newton et d'autres, évidemment, peuvent trouver des pensées intéressantes dans Hermès Trismégiste. Simplement, je crois que les archives de Newton sont encore très largement inédites à la faculté de Cambridge, n'est-ce pas ? Et on ne peut pas y accéder pour le moment.
On peut pas.
Ah si, on peut y accéder, mais enfin, ça n'est pas publié.
Écoutez, vous venez de lancer un appel à recherche et à travaux.
Non, mais il y a des gens qui le font, rassurez-vous. Je ne suis pas inquiet là-dessus, n'est-ce pas ?
Pour ce qui est d'autres formes de postérité de la pensée d'Hermès Trismégiste, je l'évoque simplement pour évacuer tout malentendu. On parle aussi d'une poursuite de cette pensée ou d'un recueil de cette pensée parmi... telle ou telle secte de différentes natures, qu'en est-il ?
Je pense que c'est une erreur de considérer que Hermès Trismégiste, au sens alexandrin du terme, c'est-à-dire ce mouvement de philosophie, est une fuite dans l'irrationnel. Pas du tout. C'est une nouvelle façon de philosopher qui s'est présentée à cette époque, d'abord à cause des nouvelles dimensions que le monde a acquis, puisqu'il inclut, il regroupe autour de la science grecque toutes sortes de nations qui ne sont pas grecques d'origine, et puis parce que la science grecque, à ce moment-là, a produit des encyclopédies, mais elle ne progresse plus. Et donc, on se demande si, en comparant, en faisant appel à des connaissances dites barbares, on ne va pas faire progresser la science. Je vous rappelle que dans la plupart des traités, on vous explique que la géométrie, c'est de l'arpentage égyptien rationalisé. L'astronomie ou l'astrologie, on ne fait pas bien de la différence, c'est de la science chaldéenne, et ainsi de suite. Eh bien, on espère qu'en faisant appel à la science des barbares, on va sortir de l'impasse scientifique où l'on est. Alors, notre période, si vous voulez, celle où nous vivons, n'est pas une époque où la science piétine, absolument au contraire, n'est-ce pas ? Et il n'y a pas de raison de fuir dans l'irrationnel. Et s'il fallait se résoudre à cela, je pense que l'hermétisme alexandrin n'est pas une pensée irrationnelle.
Merci beaucoup de cette clarification. Je peux donc, du coup, conseiller la lecture non seulement de votre traité, mais de l'ensemble des textes, sans peur que nos éditeurs...
Ah, il y a des très beaux textes dans ce texte.
D'une très grande puissance poétique, en tout cas. Une très grande puissance poétique qui modifie aussi, de fait, notre regard sur le monde, la création, sa beauté.
C'est-à-dire, ce que nous voyons, vous voyez, c'est une littérature mixte. C'est-à-dire, elle est de langue grecque, mais elle représente une pensée qui n'est pas grecque. C'est une de... le comte de Lille avait écrit des poèmes barbares. Ce sont, d'une certaine façon, des poèmes barbares que nous avons ici.
Eh bien, écoutez, pour les découvrir et s'en délecter, je rappelle les références de l'ouvrage. Hermès Trismégiste, c'est un ensemble de textes rassemblés, commentés et introduits par Jean-Pierre Mahé. Et c'est donc, comme souvent ce type d'ouvrage, aux belles lettres. Merci beaucoup, monsieur.
Merci bien.
Thank you.